Et c'est le journal de Florence Paracuelos. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Pas de cavale sous les tropiques. Le braqueur Redouane Faïd arrêté dans sa ville de Creil. Cette nuit, nous serons sur place dans un instant. Il s'était fait la belle il y a 3 mois. Les histoires d'amour finissent mal. Départ du premier des Macroniens. C'est l'autre titre à la une ce matin. Emmanuel Macron a accepté la démission de Gérard Collomb au terme d'un épisode politique assez inédit. Il y a du mou dans la Macronie. On verra ça avec Cyril Graziani. Nous ferons aussi le bilan de l'œuvre de Gérard Collomb à l'intérieur. Et à l'heure où l'exécutif paraît un peu empêtré, comment va la 5e République ? Question que vous poserez à votre invité, Nicolas.
Monsieur le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, dans le grand entretien du 7-9 01 45 24 7000 pour toutes vos questions.
À la une également, le fichier d'identité qui fait peur, nos noms, notre visage, nos empreintes, dans un grand fichier du ministère de l'Intérieur, sa légalité passée au crible du Conseil d'État aujourd'hui. Une soirée de soutien à Oleg Sentsov à Paris, le cinéaste ukrainien en grève de la faim dans les geôles de Moscou. Et une cérémonie d'hommage national aux Invalides pour Charles Aznavour. Un ami nous dit qu'il aurait apprécié.
France Inter.
Il ne félicitera pas ses équipes pour l'arrestation de Redouane Faïd cette nuit. Gérard Collomb n'est plus ministre de l'Intérieur ce matin. Nous y reviendrons dans un instant. Alors que le braqueur le plus célèbre de France a été cueilli à Creil dans l'Oise après 3 mois de cavale et une évasion spectaculaire de la prison de Réau en hélicoptère. Faïd condamné à 25 ans de prison pour un braquage mortel. Le roi de la belle n'était donc pas à Acapulco, mais chez lui, dans sa ville natale à Creil, où l'on retrouve Farida Noir. Farida, comment s'est passée l'arrestation ?
Bien écoutez, il n'y a pas eu d'échange de coups de feu. L'arrestation s'est en fait passée dans le calme. Au petit matin, aux alentours de 4 heures, une cinquantaine de policiers de la BRI sont arrivés donc ici à Creil, dans l'Oise, dans un petit immeuble dans la cité du Moulin. C'est un petit bâtiment. Et puis c'est au 4e étage, dans un appartement, qu'ils ont capturé Redouane Faïd, sans violence donc. 4 autres personnes ont aussi été interpellées en même temps que lui. Il s'agit de 2 hommes, une femme ainsi que son frère. Creil, c'est donc la ville où a grandi le braqueur récidiviste. Et il y a quelques semaines, des perquisitions ont été menées chez des proches du braqueur. 2 armes de poing ont également été retrouvées ce matin dans l'appartement. 2 exactement. Donc, Redouane Faïd, en fait, avait été repéré il y a quelques temps par les forces de l'ordre de Creil, qui l'ont donc filé jusqu'à cette interpellation au petit matin. C'est donc la fin de 3 mois de cavale pour le fugitif numéro 1.
Farida Noir en direct de Creil avec Alexandre Abergel. Des larmes de l'investiture au départ à l'usure. Communiqué de l'Elysée cette nuit à 00h30. Emmanuel Macron accepte la démission de Gérard Collomb. C'est le Premier ministre. Édouard Philippe qui assurera l'intérim au ministère de l'Intérieur. Collomb lui retourne à Lyon comme prévu, mais plus tôt que prévu. Et rien ne nous aura échappé de cette démission presque marchandée entre le président et son soutien de la première heure. Bonjour Cyril Graziani.
Bonjour.
Voilà qui est inédit après la démission en direct à la radio. C'était chez nous, Nicolas Hulot. La démission en direct dans le Figaro, c'est un signe que la situation visiblement échappe au président.
Et ça ressemble à un grand déballage. Mais c'est pour beaucoup, surtout une véritable crise d'autorité pour Emmanuel Macron. C'est sa présidence qui est en jeu, considère même une proche. Le président a tout fait pour retenir son ministre de l'Intérieur, non pas par choix, mais plus par obligation, pour ne pas donner l'impression que le bateau prenait l'eau. Même ses proches disaient encore il y a 24 heures. Si Collomb part, on va laisser penser que c'est le Titanic. Pour un ministre régalien, hier midi, ça paraissait inconcevable après un premier refus que le ministre de l'Intérieur quitte ses fonctions. Dans le Nouveau Monde, tout est manifestement possible. En 17 mois, les 3 ministres d'État que Emmanuel Macron avait nommés juste après son élection, François Bayrou, Nicolas Hulot et Gérard Collomb, ils ont tous démissionné du gouvernement, signe que quelque chose ne tourne plus rond en Macronie.
Une nouvelle crise en forme de mauvais vaudeville, a dit l'opposition hier, qui s'en est désolé ou délecté. Ça n'est pas si grave, réplique la majorité dans la voix du député Bruno Bonnel.
Je ne veux pas le banaliser, c'est un moment important de notre quinquennat. C'est aussi l'opportunité d'une nouvelle génération politique qui est en train d'émerger. Il faut quand même le reconnaître. Nous allons savoir dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Alors, je souhaite, comme tout le monde, que ça soit rapide. Il faut trouver la personne, il faut qu'elle l'accepte, il faut que elle soit, le Premier ministre présente. Il y a des institutions, il y a une logique. Hein. Ça ne se fait pas comme ça sur un coin de table ou au dos d'une enveloppe d'être nommé ministre. Mais derrière ça, il n'y a pas de carence ni d'autorité ni de pouvoir. Donc il ne faut pas laisser croire aux Français, à coup d'invectives et de vocifération, que notre système va à volo.
Alors qui pour remplacer Gérard Collomb, le ministère de l'Intérieur, Cyril Graziani, c'est le poste stratégique pour un président dans un gouvernement.
Et c'est beaucoup plus dur que de trouver un ministre de l'écologie. Le ministre de l'Intérieur, c'est l'homme ou la femme qui voit tout, sait tout. Mais le problème, se lamentait hier un fidèle lieutenant d'Emmanuel Macron, c'est le banc de touche. Et pour le remplacer, les profils solides sont assez rares. Il faut quelqu'un en qui le président ait entièrement confiance, clame-t-on dans son entourage, comme Collomb à ses débuts. Comprenez certainement pas des profils type Darmanin ou Lecornu jugé trop proche du Premier ministre, encore moins un Frédéric Pechenard considéré comme appartenant au cercle sarkozyste. D'autres conseillent à Emmanuel Macron de ne pas reproduire l'erreur au moment de Nicolas Hulot, du poste pour poste. Il faut tout nettoyer et ouvrir, résume un sénateur intime du chef de l'État, donc remanier en profondeur, du grand déballage au grand nettoyage. Mais Emmanuel Macron est-il prêt à se laisser dicter son agenda? Ça, c'est moins sûr.
Cyril Graziani du service politique de France Inter et avec nous également Sophie Parmentier du service police-justice. Sophie, avec vous, on fait ce qu'on fait à chaque fois qu'un ministre s'en va, c'est-à-dire son bilan. Quid du bilan de Gérard Collomb après un an et demi à l'intérieur?
Exactement. Alors en tout cas, les policiers et les gendarmes qui l'ont côtoyé à Beauvau disent de lui qu'il aura été un ministre de l'Intérieur à l'écoute, plutôt sympathique, assez empathique et souvent très direct dans sa façon d'exprimer les choses. Gérard Collomb ne s'est d'ailleurs embarrassé d'aucune excuse à leur égard quand il a annoncé il y a 2 semaines son désir de briguer à nouveau la mairie de Lyon. Cette annonce surprise avait pourtant de quoi décevoir ses troupes, pile le jour du grand lancement des quartiers de reconquête républicaine les plus difficiles pour les policiers. Des policiers pas très convaincus par le bilan de Gérard Collomb à Beauvau. Le ministre laissera surtout derrière lui une loi controversée sur l'immigration, un énième texte sur le terrorisme et une réforme de la police de sécurité du quotidien qui ne va pas au bout des réformes nécessaires, regrette un syndicaliste policier. Gérard Collomb laissera aussi le souvenir d'un ministre souvent imprécis et imprudent, confondant parfois publiquement gardé à vue et mise en examen ou livrant des détails pouvant mettre en péril des enquêtes. Un ministre que certains policiers ont soupçonné de mentir aussi cet été quand il a affirmé sous serment qu'il ne savait pas qui était Alexandre Benalla.
Sophie Parmentier, merci.
8h07 Florence, et serons-nous bientôt tous fichés?
Oui, comme Redouane Faïd, arrêté cette nuit, tous dans le fichier TESS pour titre électronique sécurisé. Une base de données qui rassemblera les informations biométriques et personnelles de tous les Français, pensées sous Sarkozy, validées sous Hollande et sans doute bientôt mises en place sous Macron. Ses détracteurs ont saisi le Conseil d'État. L'audience aura lieu aujourd'hui, Thibault Lefèvre.
C'est un fichier monstre pour ses détracteurs, un outil de lutte contre les faux papiers pour ses défenseurs. Le TESS rassemble 2 bases de données jusqu'ici distinctes, les 30 millions de passeports d'un côté et les 60 millions de cartes d'identité de l'autre. Il regroupe bien entendu les informations classiques, nom, prénom, date de naissance, mais aussi les données biométriques comme l'image numérisée du visage ou les empreintes digitales. Et ce sont ces données qui peuvent poser problème parce qu'elles permettent l'authentification d'un individu, soit parce qu'il a laissé une trace biométrique quelque part, soit parce qu'il peut être identifié grâce à la reconnaissance faciale. Cette technologie est installée sur de nombreux systèmes de vidéosurveillance à travers le monde. La loi interdit aujourd'hui ce type de pratique, mais pour les détracteurs du TESS, l'hypothèse de l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement autoritaire pose la question du manque de garde-fous. Autre critique, la sécurité de la base de données n'est pas garantie. Aucun système numérique ne peut en effet prétendre être complètement protégé des pirates informatiques.
Quand la France accuse l'Iran d'avoir fomenté un attentat sur son sol, c'était avant l'été un projet déjoué contre le rassemblement d'un groupe d'opposants au régime de Téhéran, l'Iran qui nie et qui appelle à lever un malentendu. Paré à toute éventualité, paré au no deal, l'absence d'accord entre l'Europe et le Royaume-Uni d'ici la fin de l'année, on s'y prépare des deux côtés de la Manche avec une loi en France présentée en Conseil des ministres ce matin, une loi d'habilitation qui permettra d'agir par ordonnance, Delphine Simon, avec des décisions très concrètes à prendre si ce scénario du pire se confirme.
700 douaniers vont être recrutés, 350 dès cette année, mais il en faudrait des milliers sans compter des policiers aux frontières, prévient le préfet de la région Hauts-de-France, en cas de divorce sans accord avec le Royaume-Uni. Et moins les réponses apportées seront à la hauteur du problème, selon lui, plus la gestion de l'ordre public sera affectée. Matignon se prépare donc au pire, mais précise que toutes les hypothèses sont encore sur la table et dans le doute, 3 blocs de mesures ont été identifiés pour sauvegarder les droits des ressortissants ressortissants britanniques à séjourner en France, préserver les droits sociaux des Français qui ont travaillé et cotisé outre-Manche, informer les entreprises ou encore prévoir des aménagements dans les ports de Calais et Dunkerque pour accueillir les 8500 camions de marchandises européens lors des futurs contrôles sous douane. De quoi générer entre 4 et 6 heures de bouchons, s'inquiète la Fédération des routiers. Bref, l'impact d'un no deal serait considérable. Dans les prochains jours, un coordinateur interministériel devrait être nommé afin de s'y préparer.
Le soupçon du jour contre Donald Trump aux États-Unis, le self-made man revendiqué aurait touché 400 millions d'euros de ses parents dissimulés au fisc. Révélation du New York Times, le service des impôts de l'État de New York a ouvert une enquête. Au Brésil, les marchés votent extrême droite, forte hausse de la bourse. Hier, après un sondage donnant Jair Bolsonaro largement en tête des intentions de vote, le candidat d'extrême droite veut privatiser un certain nombre d'entreprises publiques, ce qui rend la bourse euphorique. Le premier tour de la présidentielle brésilienne aura lieu dimanche.
Un cinéaste derrière les barreaux.
Condamné à 20 ans de prison pour terrorisme, l'Ukrainien Oleg Sentsov est en grève de la faim depuis plus de 4 mois en Russie, victime d'un procès stalinien selon Amnesty International. Une soirée de soutien était organisée hier soir à la Cinémathèque française à Paris, Omar Waman.
C'est dans une atmosphère grave que s'est déroulée cette soirée de soutien à Oleg Sentsov, car sa santé se dégrade jour après jour. Michel Elcheninov, fondateur de l'association Les Nouveaux Dissidents, en contact permanent avec l'avocat du cinéaste ukrainien.
Même s'il prend un petit peu de substitut alimentaire et qu'il boit de l'eau et qu'il est sous perfusion, il est sous hypoxie. Hypoxie, c'est-à-dire qu'il manque d'oxygène dans les tissus et dans les organes, ce qui est très grave parce qu'en fait, à chaque instant, son cœur, ses reins ou son estomac peuvent lâcher.
Et c'est pour éviter le pire que les soutiens d'Oleg Sentsov se mobilisent au quotidien, comme Costa Gavras, le réalisateur et président de la Cinémathèque française.
On ne peut pas laisser un homme mourir ou se détruire physiquement, comme ça, voilà. Il est cinéaste, donc nous essayons de l'aider le plus possible, voilà.
La Cinémathèque, qui a reçu hier soir la visite de la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, venue délivrer un message.
Ça suffit, le temps presse, ce combat est nécessaire. Il faut que la Russie libère Oleg Sentsov.
Mais pour la Russie, une grâce ne peut être accordée qu'à la demande du prisonnier, ce que Oleg Sentsov refuse de faire.
Omar Waman, sa famille n'était pas franchement pour. Charles Aznavour aura pourtant droit à un hommage national vendredi aux Invalides avec un discours d'Emmanuel Macron, comme plusieurs parlementaires l'avaient demandé, François Hollande y compris. Aznavour, qui n'était pas insensible aux honneurs, aurait apprécié, selon son ami éditeur de chansons Gérald Davoust.
C'est évidemment plus que mérité la reconnaissance qu'il a mis une partie de sa vie à conquérir. C'est la reconnaissance de l'État. Je pense qu'il ne le détesterait pas avec la distance qu'il était toujours capable de mettre avec les choses qui paraissaient parfois démesurées et avec toujours l'humour nécessaire pour ne pas trop se prendre au sérieux. Précisément, la reconnaissance, c'était quelque chose qui lui importait beaucoup. Il ne croyait pas à la starification, il avait horreur du mot « star ». En même temps, il y avait un mot qui lui importait beaucoup, c'était d'être reconnu. Et je pense à ses parents, c'était un miracle absolu. Le cheminement d'où Charles est parti et qu'il atteigne ce niveau suprême, je trouve qu'Aznavour, il est bien récompensé comme ça.
Gérard Davoust, éditeur de musique avec Benjamin Illy. Les organisateurs de la Ryder Cup ont-ils été négligents? La femme qui a perdu un œil au premier jour de la compétition porte plainte. Elle estime que les commissaires de l'épreuve auraient dû demander aux spectateurs de se protéger de cette balle qui arrivait sur eux et qu'elle a prise en plein visage. Du foot et deux résultats de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Hier soir, la frustration de Lyon qui a fait match nul à domicile 2-2 face au Shakhtar Donetsk, après son enthousiasmant de victoire contre Manchester City et la défaite des triples vainqueurs de la Ligue, les Madrilènes du Real, battus 1-0 à Moscou face au CSKA. Le Paris Saint-Germain affrontera ce soir l'Étoile Rouge de Belgrade au Parc des Princes.
Et pour finir, Florence, le coup de cœur de la semaine au cinéma.
Très remarqué au Festival de Cannes, nos batailles de Guillaume Senez avec Romain Duris, en père célibataire de deux jeunes enfants après le départ de sa femme. Un film social, émouvant et drôle, nous dit Jacqueline Pétrose.
Vous êtes habillé ?
T'as pas préparé les vêtements ?
Putain, on y va là, oh Elliot, tu peux m'aider ?
Olivier, c'est un parent, un ami, un collègue, délégué syndical qu'on appelle à tout moment. Comme père et mari, il fait ce qu'il peut. Et quand sa femme part un matin sans explication, d'abord sidéré, il est vite rattrapé par le quotidien, les enfants et le travail. Sa sœur et sa mère, venues à la rescousse, l'aideront à comprendre ses failles, mais trouver l'équilibre ne sera pas facile. Romain Duris.
C'est un film où d'un coup, le personnage découvre l'essentiel, découvre le temps important avec les enfants, de pas fuir le présent, de pas louper les choses cruciales qui passent parfois par faire le céréal aux enfants avant qu'ils partent à l'école. C'est très émouvant, c'est très drôle aussi. Je veux dire, il n'y a pas que un gars qui lutte. Moi, je pensais beaucoup à ce film que j'adore, qui est Kramer contre Kramer avec Dustin Hoffman, où il y a ce personnage aussi qui est en lutte avec son travail, les demandes de son patron et l'enfant. À la maison, il y a une séquence où il fait du pain perdu dans sa cuisine et c'est très drôle parce qu'il est maladroit, il est pressé et du coup c'est très drôle. Il y a ça aussi, je crois, dans nos batailles.
Le film touche juste les difficultés financières, la brutalité du monde du travail, les enfants déboussolés, la complicité d'une sœur. Le réalisateur a laissé les acteurs libres pour le dialogue. Tous sont d'un grand naturel et Romain Duris ici excelle.
Romain Duris qui sera l'invité du grand entretien, du grand atelier de oui. Vincent Josse dimanche à 15h. Le grand entretien, c'est à suivre.
Oui, merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Et c'est très nuageux ce matin, Marie-Pierre.
Oui, sur les deux tiers du pays, le plafond est bas. Au nord d'une ligne qui relierait la Gironde au Lyonnais, des nuages qui donnent quelques bruines de la région parisienne à la Champagne. Tandis qu'au sud, jusqu'en Corse, votre matinée sera ensoleillée au prix du vent. Mistral et Tramontane soufflant jusqu'à 80 km par heure. Et au nord, sous la couverture nuageuse, il fait très doux, contrairement au sud, où le ciel est dégagé, donc il fait beaucoup plus frais.
Et cet après-midi, les éclaircies reviennent.
Oui, de la Bretagne au Pays Basque, de la Normandie à l'île de France au Nord-Pas-de-Calais. On gardera une poche de nuages du centre-est à la Franche-Comté avec des bruines encore près des frontières allemandes. Dans le sud, le soleil va résister toujours sous le vent. Les températures seront en hausse jusqu'à 27 autour de la Méditerranée. Comptez 14 à Épinal, 16 à Metz, 17 à Lille, 18 à Quimper, 19 à Bourg-en-Bresse et à Paris. Il fera 21 à Bordeaux, 22 à Nantes comme à Pau, 23 à Figeac. Comptez 24 à Bastia, 25 à Perpignan, 26 à Marseille et 27 à Montpellier.